Chaque dimanche, de 19h à 20h, Radio Suisse Romande La Première vous propose Prélude, un divertissement classique de Robert Burnier.
En nous quittant, voilà juste 10 ans, Jean Villargile nous laissait le précieux héritage de sa longue carrière de poète, chansonnier et humoriste satirique.
Cet héritage, vous pouvez aussi en profiter chez vous en vous procurant les documents témoins de son œuvre. L'anthologie des chansons de Gilles, 108 chansons en coffret CD ou cassette.
Les histoires de Gilles, un livre de 400 pages et 2 CD ou cassettes.
Gilles et Urfer à Saint-Symphorin, coffret de 2 vidéocassettes.
Le bonheur est chose légère.
Pour vous procurer l'un ou l'autre élément de cette véritable anthologie audiovisuelle réalisée en hommage à Jean Villargile, utilisez le bon de commande paru cette semaine dans l'illustré ou téléphonez au 021 23 76 15.
Ils sont partis dans le soleil.
Radio Suisse Romande La Première, il est exactement 20h.
Infopile, Simon Cortet.
Bonsoir. Les ponts ne sont pas complètement coupés entre le CICR et l'Iran. Depuis l'expulsion des délégués de la Croix-Rouge le mois dernier, l'agence de presse iranienne IRNA annonce le prochain voyage à Genève d'une délégation chargée d'étudier un nouvel échange de prisonniers de guerre avec l'Irak. Selon le CICR, 20 000 prisonniers irakiens sont toujours en Iran et à Téhéran, on pense qu'il y a encore 5 000 Iraniens prisonniers en Irak. Conférence de presse télévisée au Palais de l'Élysée. Le président français François Mitterrand dit ni oui ni non à un référendum sur les accords européens de Maastricht. Pour lui, c'est aux deux chambres de se prononcer en priorité sur la révision de la Constitution qu'implique Maastricht. Accord de cessez-le-feu en Bosnie entre musulmans, serbes et croates, entré en vigueur en principe à minuit. Il a déjà fait le voyage de l'Allemagne. Voici maintenant Mikhail Gorbatchev au Japon. L'ancien numéro 1 soviétique et son épouse Raïssa sont en visite privée. Une visite dont le programme est tout de même rempli d'officialité. Pour Mikhail Gorbatchev, il s'agit sans doute de convaincre les Japonais de faire davantage en matière d'aide économique à l'ex-Union soviétique. C'est que les Japonais, dans ce domaine, ne se montrent plutôt près de leur sou, Georges Baumgartner.
Invité par l'ex-premier ministre Nakasone et le grand patronat japonais, le couple Gorbatchev ne sera pas moins reçu par l'empereur du Japon et l'impératrice Michiko. Sans consulter Tokyo, George Bush et Helmut Kohl ont décidé d'allouer 24 milliards de dollars d'aide à la Russie. Sur ces 24 milliards, il en manque au moins 11, dont ni M. Bush ni M. Kohl ne disposent. Jamais consulté, mais toujours sollicité, Tokyo refuse de les fournir, du moins pas directement. Tokyo ne s'est engagé jusqu'ici qu'à fournir 2 milliards et demi de dollars d'aide humanitaire à la Russie. Cette aide est toujours gelée. Mais le simple citoyen Gorbatchev ne désespère pas de repartir de Tokyo avec ce magot dans ses valises. Georges Baumgartner, Radio Suisse Romande, Tokyo.
PMU, tiercé, quarté plus, quinté plus, je vous donne l'ordre d'arriver dans le prix du président de la République, course disputée à Auteuil, le 13, le 15, l'As, le 2 et le 7. La météo avec l'arrivée de nuages cette nuit, demain précipitations sous forme de neige au-dessus de 1000 mètres, mardi, bref retour du soleil, puisqu'à partir de mercredi, de nouveau un ciel variable et des précipitations.
Info pile sur espace 2 à Châtel-Saint-Denis, 98.5.
To Devil in a Radio Suisse Romande La Première, migration avec vous jusqu'à 21h. Bonsoir à tous. Pour vous informer et vous divertir, Luc Théron en régie et au micro, Monique Pierry. Migration ce soir évoque les enfants clandestins face à leur scolarisation. Un dossier dans ses perspectives historiques, actuelles et futures, avec deux invités, Juliana Abriel du CEFEM à Genève et Florio Toni du Centre de contact suisse immigré à Genève. C'est une aventure longue, à la fois magnifique et terrible. Et si certains cantons suisses ont réalisé quelque chose dans ce domaine, d'autres ne sont pas encore parvenus à régler la question. Récemment, on a pu lire qu'à Zurich, par exemple, les enfants étrangers clandestins pourront aller à l'école. C'est aux communes de décider si elles veulent transmettre les données au contrôle des habitants, a indiqué le département cantonal de l'instruction publique, selon lequel il y aurait plusieurs centaines d'enfants en âge de scolarité vivant en Suisse sans autorisation de séjour et n'allant donc pas à l'école. Il ne faudrait pas oublier, finalement, que ces enfants clandestins aujourd'hui seront les citoyens suisses de demain. Ce soir, Migration a envie de faire le point sur la scolarisation des enfants clandestins. Ces enfants qui, pendant des années, n'ont pas eu droit à l'école publique, ont aujourd'hui accès à cette même école publique grâce à des gens dont nous avons deux représentants ici ce soir. Alors, il y a tout d'abord Juliana Abriel. Vous étiez enseignante en Italie et puis, peu à peu, vous vous êtes insérée dans le travail social. Aujourd'hui, vous travaillez pour le CEFEM. Vous expliquez ce que c'est. C'est la suite de l'AGRES. Alors, l'AGRES, c'est A-G-R-E-S et ça voulait dire l'Association genevoise pour la reconnaissance et l'encadrement des enfants sans statut légal. Voilà. Et puis, à votre droite, M. Florio Toni, qui lui est psychologue scolaire. Vous travaillez en ce moment dans l'enseignement public à Nyon. Et vous avez sorti un intéressant petit ouvrage aux éditions Zoé, dans la collection qu'on connaît bien, la collection Cactus, avec Christiane Pergaud. Cet ouvrage s'appelait « Enfants cherchent école » et c'était justement sur le même sujet, donc des enfants clandestins. Vous avez fait une enquête à propos de la France, des États-Unis et puis de la Suisse dans ces différentes régions. On en parlera peut-être en détail tout à l'heure. Alors, tous ces travaux ont amené un jour l'école publique à reconnaître le drame des enfants clandestins qui n'avaient pas droit à la scolarisation alors que tous les droits internationaux, européens et j'en passe, le mettent dans les conventions des droits de l'homme et les droits de l'enfant. Aujourd'hui, semble-t-il, les portes sont ouvertes. Est-ce que c'est à satisfaction pour vous?
Oui, aujourd'hui, en tout cas pour l'école obligatoire, et je parle du canton de Genève, donc de 4 à 15 ans, c'est absolument satisfaisant. Il reste des petits détails, donc pratiques, mais le fond est absolument satisfaisant.
Et alors, les portes se sont ouvertes exactement à quelle date? Ça fait un an.
Ça fait un an. Mais elles se sont ouvertes petit à petit. Elles ne se sont pas ouvertes comme ça un matin, voilà, tout le monde rentre. C'est un processus lent, avec des batailles, des demandes. Cas par cas, quartier, enseignante, enfin, tout le monde œuvrait un tout petit peu à cette ouverture.
Mais je me souviens d'un geste. C'était lorsque Dominique Feulmy avait pris une fillette par la main et devant la télévision avait conduit cette fillette à l'école. Ça a été le geste le plus émotionnant, le plus touchant. Il faut des fois un geste pour déclencher une réaction à grande échelle. Et moi, c'est un geste qui m'avait touchée parce qu'il faisait un geste qui n'était pas légal. Et en Suisse, on sait ce que ça vaut de marcher dans l'illégalité. C'était un homme reconnu, publiquement élu, responsable des écoles et qui fait tout à coup un geste illégal.
Oui, moi je crois que c'était un geste qui nous avait tous touchés, effectivement. Je crois qu'il faut des gestes comme ça pour convaincre, il faut des gestes comme ça pour montrer aussi la dimension humaine des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est un politique chargé d'un département d'instruction publique qu'on n'a pas ces sentiments-là, et ces sentiments avaient une correspondance chez les familles, chez les enfants, chez les enseignants, et je crois que ça a été un des moments. Je dirais fort. Des moments forts, oui, effectivement. C'est peut-être des moments aussi où certains processus sont reconnus par une autorité et en étant reconnus peuvent prendre une dimension plus large, plus crédible, et que le travail inlassable, souterrain de personnes, des simples citoyens comme nous pouvons l'être à ce moment-là, prend peut-être une autre dimension.
C'est l'aboutissement de tout un travail souterrain et ce geste déclenche une réaction assez forte qui fait que les choses, à partir de ce moment-là, vont se régulariser.
Vous citiez tout à l'heure le petit ouvrage que Christiane Pergaud et moi-même nous avons écrit, qui relatait un peu l'histoire de cette expérience. Je crois qu'il y a peut-être des moments comme ça, autant le geste de M. Fulmi que cet ouvrage, que la déclaration que M. Fulmi a faite il y a quelques semaines. Ça met en valeur le travail de dizaines et de dizaines de personnes. Nous, ce que nous avons voulu faire pendant ces 10 ans, parce qu'il faut bien dire que ça a duré à peu près 10 ans, ce n'est pas venu de rien, c'était qu'il y a eu une dynamique qui a commencé par un groupe assez petit de personnes et que petit à petit s'est élargie. Elle s'est élargie pas seulement à ce qu'on pouvait appeler à l'époque des militants ou des gens qui faisaient ça par idéal, elle s'est élargie à des professionnels, elle s'est élargie à des politiques, à des décideurs, à des responsables. Et je crois que c'était cette dynamique-là qui a fait que si aujourd'hui on a abouti à un droit, ce droit est effectif. Il n'est pas uniquement une déclaration de principe. Si on a mis en valeur ce droit à l'éducation, à la scolarisation pour tout, en tout cas pour ceux qui nous concernent, il a été une lente construction, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans l'esprit et dans la pratique vraiment applicable.
Mais comme le dit en titre cette déclaration, pour la petite école à Genève, 2 points, mission accomplie. 10 ans de travail, d'efforts, de tous ces bénévoles anonymes, de tous ces gens qui ont fait des gestes merveilleux, dont on ne saura jamais les noms, mais mission accomplie. Quelque part, ils peuvent se dire, j'ai fait quelque chose, j'ai réalisé quelque chose d'important.
C'est vrai que nous avons tenu à parler un peu en ces termes de la Grèce, de la petite école, parce que ce n'est pas tous les jours qu'une association peut faire une assemblée générale et puis, comme on le dit souvent dans les statuts, enfin, son but est atteint, donc on ferme les portes, quoi, on la dissout. Je crois que c'est important de dire cette mission accomplie et on ne saura jamais comment, à quelque part, remercier toute cette bande de bénévoles. Mais je tiens aussi à signaler que cette bande de bénévoles, elle s'est aussi lancée dans la difficulté. Elle n'a pas fait uniquement ça pour un bon cœur ou par humanisme. Si je parle aussi pour moi, Juliana parlera pour elle tout à l'heure, c'était aussi à quelque part un bien-être de citoyen, d'être quelqu'un qui a participé à un large mouvement. On a osé aussi aller dans la difficulté parce qu'il y a eu des très bonnes expériences, il y a eu des retours en arrière. Nous n'avons pas voulu non plus jouer les bénévoles, les bons cœurs face au pouvoir public méchant. On a aussi accepté, avec les pouvoirs publics, de chercher des solutions concrètes. Donc, c'est toute cette dynamique que je trouve extrêmement enrichissante et intéressante de cette expérience qu'aujourd'hui apparaît par une déclaration de quelques lignes. Mais nous savons à quel point c'est une expérience qui nous sera utile aussi pour d'autres défis à relever. Et nous savons aussi combien il y en a ces prochaines années.
Il ne faudrait pas perdre de vue la finalité que de scolariser ses enfants, ce n'est pas seulement rendre service à ses familles d'immigrés, c'est aussi rendre service au pays. Je crois qu'il faut le dire pour les gens qui ne verraient pas la finalité de l'action. Dans votre livre, donc, Enfants cherchent école, vous l'avez très bien dit, vous avez dit ces enfants sont statut légal à travers nos villes et nos campagnes suisses. Ceux de la petite école sont des habitants et seront peut-être les citoyens de la Suisse de demain. Alors, comme on déplore que l'analphabétisme à travers l'Europe est en train de progresser, contrairement au passé, et maintenant il reprend du poil de la bête, si j'ose dire, eh bien, c'est une réelle préoccupation. Et dans le fond, c'est déjà un travail de prévention pour éviter tous les problèmes qui s'attachent à l'illettrisme, à l'analphabétisme dans des pays évolués, dans des pays développés. Donc, c'est un travail de fond dont on ne voit pas toujours l'avenir. Hein. On voit des fois à trop court terme le bénéfice.
Non, tout à fait. Et ce que moi je voulais dire par rapport à comment j'ai eu l'approche avec dans les années 80-81 des tout premiers enfants clandestins. Je suis issue de l'immigration, j'ai vécu donc jusqu'à l'âge adulte en Italie, mais j'avais une image aussi de la Suisse d'un pays presque entre guillemets parfait et paradis. Et quand dans les années 80, j'ai découvert qu'il y avait des enfants qui habitaient là depuis plusieurs années, qui n'avaient pas le droit à aller à l'école, ça a été un choc pour moi. C'était un peu une image qui tombait. Je m'imaginais qu'un enfant, en tout cas en Europe, avait ce droit absolu d'aller à l'école. Donc, ça a été aussi affectif. Comment des enfants qui habitent en Suisse, à l'occurrence bon, à Genève, n'ont pas accès à l'école.
Mais alors, on comprend mieux votre motivation.
Alors que je sais que je vivais dans un pays qui est le plus proche démocratique des pays en Europe, dont j'y vis bien, dont mes enfants sont suisses. Et ce côté-là m'a choquée énormément. Donc il y avait l'affectif, mais il y avait aussi la lutte de dire ce n'est pas possible que ce pays aille ces taches noires.
Mais maintenant, je me pose cette question, maintenant que ces enfants sont admis, je me dis pourquoi est-ce qu'on ne les admettait pas? Est-ce que c'était de la part des politiques? Est-ce que c'était une volonté déterminée pour créer des difficultés telles aux familles qu'on retienne un peu les pères saisonniers de prendre avec eux leurs femmes et leurs enfants? Est-ce que c'était un moyen de pression pour les obliger à ne pas amener là leur famille?
On s'est posé, surtout avec Christiane Pergaud, on fait de temps en temps des petites analyses, des petites synthèses de pourquoi seulement dans les années 80, c'est sorti un peu le problème qui était d'ailleurs l'émigration portugaise. Une des explications est que l'émigration italienne, soit les missions catholiques, soit même les autorités italiennes, mettaient à disposition des écoles privées pour les Italiens. Il y en avait pas mal à Genève, il y en avait même à Lausanne. Donc ça pourrait aussi justifier qu'on les voyait moins, si jamais il y en avait quand même. Ils étaient scolarisés. Pour les Espagnols, le consulat avait aussi une réponse. Alors, on pourrait dire, est-ce que l'émigration portugaise, dont il n'y avait aucune réponse à la scolarité de ses enfants, est-ce que c'est là que l'enfant a commencé vraiment à apparaître? Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais celle-là, elle est certainement valable.
Ces enfants non scolarisés vivaient comment? Ils restaient enfermés chez eux toute la journée?
Tout à fait. Ils étaient toute la journée enfermés chez eux devant la télévision. Parce qu'on parle aussi des années 80, où la peur était plus forte qu'aujourd'hui.
D'être découvert comme clandestin et chassé.
Absolument.
Et on discutait ce matin avec des immigrés sur la question, et certaines femmes m'ont surprise, quelquefois ce sont les gens intéressés qui sont le plus sévères, disaient, je ne comprends pas pourquoi ces femmes venaient avec des enfants dans des conditions pareilles. Moi, à leur place, je serais restée dans mon pays pour protéger mes enfants, au détriment peut-être de la vie de couple et de famille.
Je dirais que autant le choix de rester au pays que le choix de venir ici n'est jamais fait vraiment de gaieté de cœur. Je crois que beaucoup de familles, en acceptant le statut de saisonnier, faisaient par moments un acte assez violent. Mais il faut aussi, à quelque part, quand on parle de migration, se mettre à la place des gens qui viennent. C'est-à-dire que quand vous venez d'une région extrêmement déprimée, de la Sicile ou du Portugal, vous n'avez des fois pas le choix. Et nous, des fois, et c'est notre rôle, et je pense que c'est notre dignité de nous étonner, de nous insurger contre un statut comme ça. Mais très souvent, la famille, le père, il part vraiment plein de courage, plein de bonne volonté, parce qu'il sait qu'il a quelque part une espèce de mission. Alors c'est vrai qu'à l'arrivée ça peut être différent, enfin, la Suisse ne peut paraître pas toujours comme le Pérou au niveau humain, au niveau salarial, au niveau économique, mais très souvent il y a des arrangements, très souvent les familles s'arrangent à trouver la meilleure solution possible. Alors par moment la meilleure solution possible c'est de rester au pays parce que les enfants sont déjà à l'école, parce qu'il y a un encadrement familial, une grand-mère, une tante, etc. Mais il arrive des moments dans l'histoire des familles, et ça nous arrive dans nos propres familles, chacun trouve des stratégies pour résoudre ses problèmes, ou peut-être l'encadrement d'un garçon devient plus difficile, ou il arrive à l'adolescence, c'est plus difficile pour la grand-mère de l'encadrer, parce que les décalages générationnels sont trop grands, et alors à ce moment-là, ça vient. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça en résout certains problèmes, mais ça en pose d'autres. Donc je dirais que d'un côté, c'est un mouvement tout à fait positif de faire venir les familles, même si ça pose des problèmes, et de l'autre côté, ça en résout une situation qu'au Portugal ou en Italie ou en Espagne était à ce moment-là inadéquate. Mais je dirais que ce qui me paraît important pour synthétiser, c'est que où rester, où venir, c'est jamais de gaieté de cœur. C'est quand même toujours un projet assez conflictuel, comme dans toutes les familles, je dirais.
Non, d'ailleurs, moi, je peux dire mon propre vécu. Je suis restée en Italie, mais alors sans famille. J'ai eu le droit à une instruction, dont je suis contente, mais sans famille. Et à l'époque, d'autres amis sont venus en Suisse, mais sans école. Alors donc, il n'y a pas vraiment un choix, aussi longtemps qu'il y a un statut de séparation des familles.
Au fond, tout ça découle d'une économie qui se sert des êtres humains comme des pions.
Pour moi, c'est absolument cela.
Oui,
en tout cas, effectivement, c'est
ça. Et dans l'une des manifestations, cet unique statut de saisonnier pour lequel le travailleur, en termes de force de travail compte et pas l'homme, le père de famille, le frère, l'oncle. La dimension humaine est exclue en fait. Beaucoup de branches économiques suisses, pas seulement les trois importantes, le secteur de la construction, de l'hôtellerie et de l'agriculture, mais même d'autres petites branches ont carrément vécu et survécu grâce à ce statut-là.
Et au sacrifice de beaucoup de gens.
Et en fait...
ça s'est fait sur le dos...
sur le dos de ces familles. De familles, mais aussi du travailleur lui-même, parce que souvent c'est des pères, ces travailleurs. Hein. Et puis... on a des fois un petit peu la représentation facile, ils viennent là, ils travaillent, ils laissent tout le monde là-bas. Disons de manière peut-être un peu professionnelle, parce que je suis psychologue de profession et il m'arrive d'en rencontrer beaucoup à la suite du processus, à la fin, quand ils se regroupent. Et c'est là qu'au fond la souffrance de l'homme qui a été lui-même séparé de sa famille, parce que je dirais que c'est une histoire de séparation... a deux sens, et c'est pas simplement la femme et les enfants qui sont restés là-bas, c'est aussi l'homme qui est ici tout seul, qui a peut-être plus d'avantages, qui a peut-être une vie sociale, qui touche un peu à la prospérité occidentale, mais à quel prix aussi pour lui ? Et il n'y a pas simplement le bonhomme qui va en discothèque, et puis, mais il y a aussi le bonhomme qui regarde sa photo tous les soirs, et il y a aussi ces images-là qui sont importantes, et quand finalement, au bout d'une démarche de quelques années, cette famille peut se réunir, il peut trouver sa femme, il peut trouver ses enfants. Cette réunion pose aussi d'autres problèmes. Et il y a un petit peu tout ce vécu de séparation qui ressort. Il faut que chacun retrouve son espace, il faut que chacun se réaménage, il faut que chacun se réhabitue à l'autre. Il faut que le travailleur devienne père, il faut que le travailleur devienne mari. On n'apprend pas sur les livres, ça. On apprend ça dans l'expérience de tous les jours. Et il y a des fois des expériences qui sont cruelles, qui sont difficiles. Et pour mes collègues psychologues, des fois des situations dramatiques à démêler, quoi.
La remise en cause serait quasi totale dans l'économie. Si on voulait que l'être humain soit plus respecté, il faudrait mettre à plat toute la vie, réorganiser tout ça. C'est-à-dire que le travail est important, il faut travailler pour vivre, mais en même temps, ça ne doit pas conditionner tout le reste. On pourrait mieux tenir compte des éléments de la vie. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait tout revoir.
Ce qui est un peu paradoxal, c'est sûr que l'économie a ses méthodes de travail. Mais je dirais que ce qui est un peu paradoxal aujourd'hui en Suisse, c'est qu'au fond, à part quelques petits secteurs et quelques petites entreprises, finalement, même économiquement aujourd'hui, ce statut-là n'est plus viable. Et qu'en fait, avec une certaine volonté politique, on pourrait trouver des moyens de ne pas mettre, au fond, toujours l'économique au premier plan, dans le cadre du statut de saisonnier. Je ne parle pas d'un fonctionnement de l'économie générale. Mais que finalement, souvent, ce statut-là est utile, je dirais, pour d'autres besoins. Il est utile parce que ça permet à certaines branches de trouver de la main-d'œuvre à bon marché, plus que par le fait qu'il y a vraiment un travail saisonnier dans leur branche et puis qu'on ne travaille pas en janvier, février, mars. Ou alors parce qu'en fait, même statistiquement, les saisonniers ne sont pas des migrants résidents. Ce qui fait que, par moment, de pouvoir justifier qu'il n'y a que moins d'un million d'immigrés en Suisse, alors que si on compte vraiment tous ceux qui sont là, ça pourrait être 1,3 million, 1,4 million. C'est des fois un peu ça l'utilité du statut de saisonnier, plus qu'une utilité économique. Alors j'espère un peu qu'on va vers des solutions plus humaines, peut-être grâce au débat européen. Là, l'Europe nous donnera peut-être un coup de main dans une certaine socialisation des conditions de travail. Mm-hmm. Mais je dirais que même pour la Suisse, il y a déjà au niveau du patronat deux voix discordantes. Il y en a qui tiennent absolument ce statut parce que probablement c'est la seule condition de survie. Mais il y en a d'autres que pour lesquels ça peut être une tare, parce que les grosses entreprises de la construction, de ne pas avoir un certain nombre de travailleurs pendant 3 mois, ça peut être aussi une difficulté économique.
Oui, moi j'ai entendu les deux thèses. On pensait que ce statut allait disparaître dans le cadre d'une intégration à l'Europe, et puis on nous dit que probablement pas complètement, puisqu'il y a des travaux trop saisonniers et que ces gens ne pourraient pas occuper leur temps ailleurs, et qu'il va rester une catégorie de gens avec des contrats, ce qu'on appellera des contrats à court terme, mais enfin, le résultat pratique, il est à peu près identique.
C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que pour un certain nombre de travailleurs, l'espace économique européen va leur donner un coup de pouce favorable, c'est-à-dire qu'on va vers des conditions plus humaines, peut-être un statut avec regroupement familial immédiat, ceci pour répondre aux besoins d'une grande théorie de l'espace économique européen, qui est la liberté de circulation de la main-d'œuvre sur une égalité de droits. Par ailleurs, on a le gros souci, c'est que ceux qui seront exclus de cet espace économique européen auront, eux, enfin, comme seule possibilité, outre celle de ne pas pouvoir entrer en Suisse, celle de pouvoir entrer en Suisse par l'intermédiaire de statuts extrêmement précaires de 3, 4, 6 mois, qui vont leur donner un espèce de bol d'oxygène à eux en situation économique précaire, mais qui ne leur permettront d'accumuler aucun droit pour la suite, ni pour eux, ni pour leur famille.
Par rapport aux dames, ce qui est le statut du saisonnier, et Florio parle au moment de l'unification. Il faut dire aussi que des fois, il n'y en a pas d'unification. Le système du permis A, quand le détenteur du permis A devient permis B, lui seul a le droit de demander le regroupement familial pour sa femme et ses gosses. Et parfois, malheureusement, ils se sont formés 2 familles, une en Suisse et un autre pays. Et donc, le propriétaire du permis B ne va pas faire la demande pour la famille qui est restée au pays. Et cela, ce sont aussi des drames énormes. Et
il ne reste plus qu'à souhaiter que ces pays-là aient bientôt leurs propres industries et que les gens puissent rester sur place. Mais c'est une solution aussi qui ne sera jamais valable pour tout le monde. Donc on aura toujours de la main-d'œuvre saisonnière, toujours ce genre de drame.
Tout à fait. Mais il resterait peut-être une autre solution aussi, que des permis de séjour en Suisse soient individuels, nominatifs, et pas que la femme et la famille doivent dépendre du père. Par exemple, ça serait aussi une solution. C'est-à-dire que monsieur a son permis, et quand il a le droit de faire venir sa famille, madame puisse le demander à titre personnel et pas dépendant du mari, par
donc,
exemple.
Il y a différentes solutions quand même.
On peut trouver des possibilités.
Si on veut, on trouvera. Oui. J'aimerais qu'on refasse un peu un historique de cette intégration progressive des enfants au statut clandestin en Suisse. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est à Neuchâtel qu'il y a eu la première école clandestine de femmes, je crois. Je me souviens d'une émission à la télévision où on avait vu ce projet magnifique. Donc ce sont des gens privés, des gens courageux qui ont osé braver la légalité pour rendre justice à ces enfants. Et je trouve que dans ce pays où c'est si difficile d'affronter la légalité, moi je trouve ça remarquable.
Je pense qu'il était peut-être plus difficile pour elle, seule, enseignante, de monter ce projet. Je crois que pour nous, même si on a choisi des voies différentes, cet exemple de Neuchâtel et l'exemple qui a suivi de la Chaux-de-Fonds ont été des exemples, ont été un petit peu des moteurs, même si c'était plus petit, même si c'était plus limité. Je trouve que c'est intéressant aussi de savoir que ça se passait ailleurs. Je crois d'ailleurs pouvoir dire que dans d'autres cantons aussi, c'est peut-être bien de temps en temps de dire que ce n'est pas qu'à Genève que les choses
tout à
intéressantes
fait. D'ailleurs, c'était
passent.
10 ans avant Genève.
Voilà,
Neuchâtel, c'était 1970. Genève, voilà. C'était 1980.
Voilà. J'aimerais quand même rendre un peu hommage à des dizaines de collègues enseignants inconnus que sûrement ont accepté des enfants dans leur village, dans leur commune, sans faire trop de bruit, sans le mettre sur les journaux, sans parler à leur directeur ou à leur inspecteur. Et je crois que là aussi, ils et elles ont contribué à leur façon à que ce projet petit à petit mûrisse, et que des expériences comme la petite petite école puisse voir le jour et
c'est que justice et amener de leur rendre hommage ce
voilà,
soir. Oui.
Je dirais que c'est important de rendre hommage, pas seulement à ceux qui ont publié des livres comme moi et mon ami Christian Pergaud, mais il faut surtout rendre hommage à tous ceux que dans l'ombre, bien avant nous, sans faire de bruit, dans leur petit village, ont tout simplement fait un métier d'enseignant devant 20 enfants, sans se poser la question ni s'ils venaient du village à côté, ni du pays à côté, ni s'ils avaient un passeport à Croix-Rouge, ni s'ils avaient un autre passeport.
Ils ont pris des risques.
Ils ont pris des risques, et puis moi, en tout cas, je leur rends un hommage vibrant.
Alors historiquement, on va rappeler quand même deux, trois dates importantes. C'est en 1974 que le centre de contact suisse immigré s'est créé à Genève et il s'est battu tout d'abord pour le regroupement donc familial, pour l'abolition du statut de saisonnier. Il y a encore du travail à faire, à vous entendre. Et a fait petit à petit cette prise en charge des enfants clandestins. Est-ce que la presse vous a aidé dans ce domaine ou pas suffisamment?
La presse, certainement, à certains moments, nous a aidés. C'était nous qu'on n'avait pas tellement envie d'aller vers la presse. Il ne faut pas oublier que c'était une école pour enfants clandestins, donc l'école même clandestine. On ne pouvait pas être sûr que on que militante ou en tant que personne de salarié dans ce mouvement, mais on engageait des familles, c'est-à-dire qu'on avait concentré un lieu unique des enfants clandestins et avec des familles clandestines. Donc c'était nous qu'on se méfiait un tout petit peu de la presse. Donc on est allé petit à petit.
Moi je dirais que si la presse s'en est occupée de manière limitée, c'était que nous avons aussi nous-mêmes tenter, comme dit Juliana, de protéger un peu ces familles, parce qu'il faut imaginer que la situation est évoluée, mais qu'il y a une dizaine d'années, il y avait quand même des dangers qui étaient plus importants qu'aujourd'hui. Mais nous avons toujours privilégié, dans l'information, au fond, la question suivante. En quoi scolariser des enfants vous est utile à vous enseignants, vous est utile à vous citoyens de la Suisse? Et que peut-être des fois, certains journalistes voulaient plus l'aspect enfant clandestin que l'enfant de demain. Dans notre pratique de la petite école, de la Grèce, du centre de contact, nous avons toujours à l'esprit pourquoi il faut faire ce travail. Et notre but, c'était toujours celui qu'au fond, la société se rende compte que d'avoir des êtres humains non informés, non scolarisés, non formés, était au fond une tare que cette société allait porter par la suite. Donc, peut-être quand on mettait un peu cette barrière, on est d'accord de beaucoup parler de la petite école dans ces termes-là, certains journalistes étaient un petit peu découragés. Par contre, d'autres ont pleinement joué ce rôle de montrer en quoi une société, et si la petite école était peut-être une partie de cette société, pouvait faire un travail, comme vous le disiez tout à l'heure, presque un peu de prévention.
Un travail en profondeur, disons du bon travail journalistique tout simplement.
Voilà, c'était du bon travail journalistique.
comme la plupart des bons projets, tout ça est né de quelques initiatives personnelles. Et puis un jour, le problème devenant crucial sur la place publique, d'abord les services sociaux s'en sont chargés, et puis en approchant les services officiels, ça a été une prise en charge globale. Mais c'est quand même tout un chemin, il ne faut pas oublier que ça a duré 10 ans. Et c'est long quand même, et c'est plein de dangers, plein d'angoisses et de beaucoup de drames. Quelquefois, ce serait bien si ça allait plus vite. Enfin, ici, j'ai sous la main une feuille qui résume tout. Enfin, c'est une feuille importante quand même. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique qui a fait ses recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère. Donc, ça date d'octobre 91. Et il réaffirme haut et fort le fameux principe selon lequel tous les enfants de langue étrangère vivant en Suisse doivent fréquenter l'école publique. On doit éviter toute discrimination. Ils font moult recommandations aux cantons qui restent compétents en matière d'éducation. Et il y a aussi des recommandations faites aux communes. Le matériel scolaire, par exemple, doit être mis gratuitement à la disposition des enfants, des adolescents et des parents étrangers pour mieux contribuer à leur intégration dans les domaines de l'éducation et de la formation. Et puis aussi, la commission invite toutes les organisations extrascolaires à se préoccuper d'un certain nombre, toujours grandissant, de jeunes et d'adultes et de parents étrangers qui sont en situation difficile. Donc, par cette circulaire, on sent bien que tout maintenant est entré dans la loi, si j'ose dire. C'est amusant de parler de loi, parce que depuis 1536 à Genève, l'éducation est obligatoire et gratuite. Et il faut des fois 400 ou 500 ans pour entrer dans les faits. Il y a des périodes de restriction. Vous avez dans votre livre pris deux exemples. Vous avez pris la France. Et vous avez pris les États-Unis. Les États-Unis, à propos du problème texan et des enfants de l'immigration mexicaine, l'immigration clandestine. Et puis pour la France, vous avez pris la plume par les cornes, si j'ose dire, et vous avez cité Chirac, qui, lui, n'a pas craint d'être dans l'illégalité en refusant l'accès aux enfants dont les parents n'étaient pas en règle. Donc en plein Paris.
Ouais, ouais.
Quel exemple.
Ouais. Mmh. Tout à fait. Puis. Je dirais que quand même ces deux exemples des États-Unis et de la France, cumulés avec quelques exemples suisses de certains cantons, nous ont mis à quelque part sur une voie que nous avons utilisée, qui était celle-là. Au fond, de dire, autant dans ces deux pays que dans beaucoup de cantons suisses, on exprimait très clairement, pas seulement le droit des enfants d'aller à l'école, mais le devoir des autorités. C'est particulièrement frappant dans le cas entre le Mexique et les États-Unis, où en fait, finalement, un déclic de l'admission des enfants à l'école, c'est qu'une cour de justice a admis que finalement, il y avait une loi qui disait clairement que tous les enfants devaient être scolarisés, que l'autorité avait le devoir, que à la limite, la famille était punissable si elle ne scolarisait pas les enfants. Et nous nous sommes rendus compte, à partir aussi de ces exemples-là, qu'au fond, en Suisse, il y avait aussi ces instruments-là. Chaque canton a une loi scolaire qui dit qu'il faut scolariser les enfants. Mais que finalement, les enfants n'arrivaient pas à l'école, pas parce qu'il y avait une loi qui leur interdisait l'école, mais parce qu'on appliquait une loi qui était tout autre, qui était la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Et que finalement, il s'est produit une espèce de glissement entre le fait de ne pas avoir le droit d'être en Suisse et le droit de ne pas être à l'école. Et finalement,
très ambigu tout ça.
C'était un peu cette ambiguïté sur laquelle nous avons aussi un peu joué, je l'admets facilement. On ne peut pas non plus être d'une cohérence exemplaire. Mais je dirais que nous avons à un moment donné dit, au fond, sur la base aussi d'un avis de droit d'un constitutionnaliste, chaque canton a une loi et il faut que chaque département puisse appliquer sa loi. Ce n'est pas au département de l'institution publique d'appliquer une loi sur le séjour des étrangers qui concerne, dans ce cas, les parents. Et finalement, cet avis de droit nous a donné raison.
Mais c'est très subtil, parce qu'en admettant que vous appliquez la loi sur la scolarisation obligatoire, vous emmenez des enfants clandestins à l'école, là, quelqu'un les surveille, prend leurs adresses et ensuite expulse les parents. Vous voyez ce que je veux dire ? En appliquant une loi, vous prétéritez autre chose. C'est quand même terrible. C'est très délicat, tout
c'est
ça.
C'est très délicat.
Parce que la Cour suprême aux États-Unis avait relevé que les enfants ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'endroit où leurs parents vivent, qu'ils ne peuvent pas être punis pour les décisions qu'ils ne leur incombent pas. Bon, c'est bien, mais en même temps, si on se sert des enfants qu'on a identifiés parce qu'ils sortent en plein jour pour punir les parents ne sont pas fous, ils les cachent, ils savent pourquoi. Donc c'est quand même, tout ça est quand même très bizarre. Mais les Américains, comme toujours, quand il s'agit de démocratie, brandissent très haut leur règlement. Ils ont dit l'école est un lieu d'apprentissage de la démocratie. Refuser la scolarisation à des enfants, c'est saper la démocratie. Quand même.
Ouais, je crois que c'est un peu la contradiction qui finalement joue quand même un certain rôle. Mais alors, je vous rejoins facilement. C'est sûr que avoir essayé d'affirmer haut et fort que chaque département avait cette tâche-là et pas la tâche, je dirais, entre guillemets, répressive par rapport aux parents, ne voulait pas dire qu'on allait légaliser la situation des enfants et des parents. Je crois quand même que...
C'est dans l'attente,
que se règle un dossier. Je dirais aussi qu'il y a une espèce de dynamique qui s'est créée. La société en tant que telle a pris conscience de l'importance de la scolarisation des enfants. Donc, au fond, sans pour autant dire que la situation devenait parfaitement légale, nous avons quand même accumulé quelques atouts. Enfin, de l'importance et du fait que c'était adéquat de scolariser les enfants.
Ce que vous dites me fait penser à quelque chose. Lorsque les gens sont témoins d'injustice, ils nous disent toujours « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire, nous. » Ben oui, ils peuvent faire, parce qu'en réagissant, on a senti une volonté politique du citoyen, et après ça, les hommes politiques ont le courage de faire un pas en avant, parce qu'ils sont poussés par ce qu'on appelle une opinion publique. Donc les gens, en se mobilisant, créent des opinions publiques qui forcent leurs élus à faire un pas de plus et donc à modifier ou à proposer des lois nouvelles. Alors voilà pour ce qui était de la situation et un peu de l'historique, comment tout ça s'est développé grâce à des gens, des initiatives privées, puis à l'ouverture de l'officialité, au soutien du social, car le domaine social a été prépondérant dans ce domaine. J'ai regardé aussi par qui vous aviez été financé. Il y a une liste de gens, Centre social protestant, Terre des hommes, et j'en passe. Enfin, il y en a toute une page. Donc vous avez quand même trouvé des fonds pour vous soutenir. Vous avez dit, Juliana, on a trouvé le budget en 6 mois. C'est magnifique, ça.
Non, tout à fait. Et quand on a créé vraiment l'association, donc en 84, et qu'on a fait la petite école, on s'était d'ailleurs même posé la question, est-ce qu'il fallait l'appeler école ou pas ? Parce que dans la tête de tout le monde, était quand même qu'un passage vers la légalisation du droit à l'éducation. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien faire une école privée comme il en existe des centaines, mais ce n'était pas notre but, hein.
Il fallait que l'État prenne en charge.
Il fallait que l'État prenne en charge. Il fallait qu'on lui montre vraiment, qu'on visualise qu'il y avait des dizaines et des centaines d'enfants, mais que c'était pas le privé à prendre cette responsabilité.
Vous chiffrez en centaines d'enfants entre 4 et 500 pour Genève?
Oui. Et pas tous. Donc, il y avait plusieurs solutions. Il y avait la solution de la petite école, de l'école privée genoise et voire de la France. La France, sur plusieurs années, a, je dirais, instruit des enfants dont les parents payaient les impôts à Genève et les a instruits en France. Il y avait entre 2 et 3 quarts qui tous les jours partaient de Genève pour aller scolariser les enfants dans la banlieue de Genève.
Elle disait reprenez à femme et femme.
J'ai un peu perdu de vue la suite du processus depuis l'abandon de la courte échelle. Est-ce que la Suisse a finalement signé la déclaration des droits de l'enfant ou pas encore ?
Signé, oui, mais pas ratifié.
Ah, signé, mais pas ratifié. Donc, toujours pas ratifié.
Donc, il y a deux étapes dans une convention. C'est une signature, un peu de principe, qui n'a pas valeur coercitive et d'application, et une ratification. Alors, la Suisse a manifesté de l'intérêt en signant, et il y a actuellement des travaux en cours, parce qu'au fond, l'attitude des autorités fédérales est toujours celle de d'abord rendre les lois adéquates à la Convention avant de la signer. Ce qui peut être une certaine attitude compréhensible et logique. Mm-hmm. Bon, évidemment, Suisse. Le problème qui se pose là, c'est le problème du statut de saisonnier et du regroupement familial.
Il n'y a que ça qui nous empêche de signer
actuellement, de ratifier. Actuellement, sur la Convention des droits de l'enfant, c'est celui-là. Ah. Mais c'est quand même le fond. Hein, je veux dire, il y a quelques parlementaires qui souhaiteraient signer cette Convention et la ratifier avec réserve. Mm-hmm. Nous, de notre côté, ce qu'on dit, pas seulement nous, mais enfin, un certain nombre de personnes et d'organisations intéressées au sujet, c'est qu'au fond, si on la ratifie avec la réserve du maintien du statut de saisonnier, elle perd un peu de son fond. Parce que finalement, c'est quand même ce statut-là qui empêche les familles de se regrouper. Donc au fond, on maintiendrait comme un espèce de statu quo qui,
ça serait
qui n'avance
un
pas.
Quo, parce que pour tout le reste, l'enfant est d'accord. Profondément respecté en Suisse.
Tout à fait. Dites à propos d'argent, je voudrais souligner une chose dont vous faites d'ailleurs état dans votre livre. Au cours des années, vous avez demandé un écolage aux parents. Donc oui. Vous avez reçu de l'argent de la part des organisations sociales, mais vous leur avez demandé une participation. Je voudrais quand même que ce soit souligné. Ils payaient oui. quelque chose. Ils devaient être très heureux que leurs enfants sortent enfin de leur chambre noire, si je peux dire.
Ils étaient plus qu'heureux, ils étaient reconnaissants. Et c'était déjà une certaine reconnaissance de l'enfant. Et ils pouvaient apprendre quelque chose. Et on devait toujours, justement, beaucoup se gaffer, les enseignantes et moi-même en tant que parent, quand je recevais les familles, de dire que c'était juste une réponse très simple d'une scolarité, mais qui n'était pas une vraie école. Il fallait pas non plus les tromper. On ne voulait pas de vraie école. On voulait répondre à l'enfant. Il faut que l'enfant ne reste pas dans le placard, mais on voulait avancer politiquement pour que demain soit un enfant comme tous les autres. D'ailleurs, le logo des rapports de la Grèce, il y a une petite maison et c'est un enfant de 6 ans qui avait fait cela, et avec une croix. L'école s'est passée dans les églises.
J'aime bien quand vous dites la Grèce parce qu'il ne s'agit pas du pays, hein, c'est AGRES, cette fameuse association genevoise pour l'encadrement.
La reconnaissance et l'encadrement des enfants.
Voilà, la Grèce. Et enfin, pour clore cette première émission, car nous allons nous revoir pour votre futur, parce que nous avons beaucoup d'autres choses à traiter, mais pour ce qui concerne maintenant, on pourrait dire que le dossier est clos, ces enfants sont admis. Et c'est une belle réussite. Il faudrait quand même se souvenir que pendant des années, il y a des enfants qui n'ont pas bénéficié de cette admission à l'école. Et donc, il y a au moins 2 générations d'immigrants qui ont précédé ces enfants-là, qui, eux, ont payé le prix fort. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils travaillent chez nous ? Ils sont illettrés ? Est-ce que vous avez fait une étude sur cette population qui n'a pas reçu cette instruction ?
Non, je pense pas qu'on peut vraiment parler d'illettrisme pour cette population-là. On n'a pas d'études précises. Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de jeunes parents actuellement. Je dirais qu'on le remarque par rapport à leur, je dirais un peu culture scolaire, quoi. Difficulté de compréhension par moment du fonctionnement de l'école, de la nécessité, par exemple, d'une rencontre entre un père et un enseignant. Il y a toute une série de choses qui sont pour nous implicites, que toute une génération de gens qui a eu très peu de scolarité elles-mêmes ou leurs enfants ont eu très peu de scolarité ne sont pas là et qui posent aujourd'hui des problèmes au fonctionnement de l'école suisse dans sa globalité. Je dirais que, là c'est peut-être un peu le professionnel qui parle, que en fait aussi un des succès de la petite école et du droit à l'éducation, c'est que pas seulement l'aspect de la scolarité est sorti de la clandestinité, mais la vie de ces enfants est sortie de la clandestinité. Ils ont eu la possibilité de vivre en société, d'être un enfant comme tout le monde, un jeune comme tout le monde, d'avoir des loisirs,
d'avoir des moments difficiles, des moments faciles, des moments de famille, des moments de socialité.
Non, parce qu'on l'oublie, ces enfants n'avaient même pas le droit de faire du bruit pour ne pas être identifiés.
Disons, si on va au strict concret de leur vie quotidienne,
la peur,
un simple bruit, une simple bêtise, comme nous en avons fait tous des milliers ou des centaines, pouvait être, disons, catastrophique au niveau de la vie de toute la famille. Et je dirais que, si on veut, le fait que ces enfants vont à l'école est un peu la pointe de l'iceberg d'une certaine possibilité pour eux, pour leur famille, pour leurs petits frères, pour leurs cousins, pour les générations suivantes, de faire et d'avoir une vie en société. Et je crois que ça, c'est aussi un acquis important. On constate aujourd'hui, dans les familles que nous recevons, soit au centre de contact Suisse Immigrée, soit dans le centre école Famille Migrante, qu'il y a quand même une meilleure disponibilité. Les gens comprennent un peu mieux pourquoi il faut faire telle et telle chose pour l'école. Ils vont petit à petit mieux comprendre le but de la formation professionnelle. Alors que quand vous vivez pendant des années, dans la clandestinité, au fond, tous ces aspects-là se cantonnent en fait à la survie, quoi. On doit tout simplement survivre, on doit tout simplement faire attention à ne pas faire le geste qui va mettre en discussion, va mettre en cause l'existence de toute la famille. Et quand on est dans cet esprit-là, on tend à faire de plus en plus de repli sur soi-même. Et ça, je pense que tous les professionnels du social, de l'école, remarquent au fond, il y a maintenant quand même un peu plus de facilité à les rencontrer, un peu plus de facilité à entreprendre des démarches avec eux, un peu plus de facilité à poser le problème de la formation. Et je crois que ça, c'est un atout.
Dans tous les ouvrages que vous m'avez passés et que j'ai potassés, ce que vous venez de dire ressort. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement donner une instruction qui va coûter un peu d'argent à l'État suisse. C'est installer le climat qui régnera dans ce pays demain. Hein, la paix, l'esprit d'amitié entre les peuples et des gens qui auront été maintenus dans la clandestinité ne vont pas avoir des sentiments très chaleureux à l'égard du système et du pays dans lequel ils sont peut-être appelés à vivre toute leur vie. Donc c'est aussi un peu plus loin qu'il faut regarder pour comprendre les nécessités immédiates.
Exactement.
Et ne pas penser qu'il s'agit simplement que la Suisse paye la scolarité à tout le monde, enfin, parce que les autres pays sont soumis exactement au même problème que nous. Certains les résolvent mieux, d'autres moins bien, mais j'entends on n'est pas les seuls à faire ça.
Ah, je vous en prie, les pays parents partout. Payent, les parents de ces enfants, tout en étant saisonniers, payent des impôts tout de même. Hein.
Déjà,
donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ils payent les charges sociales, comme tout autre parent.
Voilà, sans avoir...
Et sans avoir les mêmes
avantages.
Droits.
Voilà. Alors, à propos de droits, on se reverra pour parler de votre travail aujourd'hui, parce que la petite école est fermée puisqu'elle n'a plus sa raison d'être. Mais vous avez ouvert le CFEM. Le problème est résolu pour les enfants de 4 à 15 ans, mais il ne l'est pas à partir de 15 ans. Les problèmes existent encore. Absolument. Donc vous avez créé le CFEM en fermant l'autre, vous en avez ouvert un. Et puis on va parler aussi de quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui, parce qu'aussi on en parle depuis très longtemps partout, c'est du droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers qui vivent chez nous depuis de nombreuses années. Alors on s'apercevra à cette occasion des disparités entre les différents cantons romands. Ça fait presque plaisir, là, le cantonalisme, parce que certains cantons progressistes entraînent les autres. Ils ne sont pas tous au même stade d'évolution, heureusement. Je crois qu'on reparlera aussi du Jura, de Neuchâtel, qui sont en avance sur la question. Et ce sont vos chevaux de bataille futurs. Alors, on se revoit un de ces prochains dimanches pour parler de ces questions tout à fait particulières et qui intéressent les Suisses et les étrangers qui nous écoutent.
Merci.
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 Je remercie mes invités de ce soir, Juliana Abriel, enseignante, qui s'occupe activement aujourd'hui du CFEM, Centre École Famille Migrante, à Genève, et Florio Toni, président du CCSI, Centre de Contact Suisse Immigrée, à Genève également. C'est un psychologue scolaire. Il nous parlait des enfants clandestins, de leur scolarisation, effective aujourd'hui dans certains cantons, mais pas encore partout. Je vous rappelle les coordonnées du CCSI à Genève, pour ceux qui voudraient s'informer. C'est donc à la rue Simon Durand, numéro 9, 1227 Acacia, avec un téléphone, le 022 43 84 80. Avec une permanence tous les après-midi, sauf le jeudi. Le jeudi, c'est plutôt le jeudi matin. Et puis, je rappelle aussi les coordonnées du livre que nous avons cité, « Enfants, cherche école » de Christiane Pergaud et Florio Toni, paru dans la collection Cactus aux éditions Zoé à Genève. C'est un petit livre très, très instructif. Voilà, ce soir, c'était des migrations enfantines, tant par les propos, la scolarisation des enfants sans statut, que par... les chants, les chansons. D'ailleurs, on va encore vous en offrir une tout à l'heure. J'espère que cette heure de migration vous a plu et que vous serez des nôtres dimanche prochain sur Radio Suisse Romande de la Première à partir de 20h. Dimanche prochain, pour les migrations pascales, nous accueillerons Monseigneur Pierre Mamie, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Il évoquera notamment ses échanges avec des pays africains. Mon compagnon technique de cette soirée, Luc Théron, se joint à moi pour vous souhaiter soit une agréable soirée en compagnie de Radio Suisse Romande La Première, soit une bonne nuit. À dimanche prochain. Bonsoir.
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors ils... C'est comme des parfums qu'on respire. Juste un regard facile à faire.
Service Vidéotex de Radio Suisse Romande La Première, le jeu des trois clés.
Pour jouer, tapez 50-11.
Et en répondant à des questions sur l'actualité et la vie économique, vous pouvez chaque mois gagner de l'or.
Pour toutes et tous, un jeu à la fois attrayant et instructif sur votre Vidéotex.
Radio Suisse Romande La Première, le jeu des trois clés.
Tapez 50-11 et gagnez.
Voilà, Migration vous souhaite à tous une semaine sainte heureuse. Radio Suisse Romande, La Première, il est 21h.
Infopile, Pierre Berset.
Bonsoir. 82 minutes d'un monologue entrecoupé des questions polies de 5 journalistes et Mitterrand dresse un vaste panorama de l'état de la France et de l'Europe. Le président français ne se prononce pas sur la question de la réduction du mandat présidentiel. Situation confuse au sein du gouvernement russe qui menaçait cet après-midi de démissionner en bloc au cas où les réformes économiques seraient bloquées. Toutefois, le Parlement de Russie